Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Pierre-Yves de Rolin. La gourmandise de ce matin est une espèce de cigale mathématicienne qu'on trouve dans certaines forêts d'Amérique du Nord. Tous les 17 ans, au mois de mai, leurs chants envahissent les bois pour trouver un partenaire. Elles se reproduisent, puis festoient à la surface de la terre pendant 6 semaines et meurent. En été, leurs œufs éclosent et les larves s'enfoncent dans la terre jusqu'à une racine dont elles pourront absorber la sève pendant 17 ans avant d'imiter leurs parents. Comment savent-elles que 17 années se sont écoulées ? Aucun scientifique n'a trouvé l'explication, mais quelques mathématiciens ont remarqué que la durée de leur cycle correspondait, comme celui d'autres cigales, à un nombre premier. Ils émirent alors l'hypothèse qu'en sortant tous les 17 ans, ou 13 ans comme certaines de leurs consœurs, les cigales étaient peut-être parvenues à éviter un prédateur, apparaissant périodiquement dans la forêt en faisant baisser la probabilité d'une rencontre. Titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France en 2011, jardinier, écrivain, rêveur, penseur, érudit et contemplateur engagé, notre apothicaire de l'âme débute par des études d'ingénieur agronome, puis d'architecte paysagiste et parcourt la planète depuis ses plus jeunes années. D'abord Argenton-sur-Creuse et Oran, puis l'Afrique du Sud, le Nicaragua, Madagascar ou le Cameroun. De l'un de ses voyages, il rapporte un papillon nocturne inconnu qui porte aujourd'hui son nom. En 77, il achète quelques hectares en friche dans la Creuse et y construit sa maison entourée d'un jardin poétique, illustrant parfaitement sa théorie du jardin en mouvement, laisser faire la nature plutôt que la contraindre. Notre homme célèbre deux aspects du monde que beaucoup trouvent effrayants, la diversité et l'imprévisibilité. Son concept humaniste du tiers paysage révèle la richesse des espaces jugés à tort comme déshérités. Notre apothicaire résistant dévoile dans ses jardins la beauté de chaque élément. Les orties, insectes et taupes deviennent des compagnons désirables. Son regard embellit tout ce sur quoi il se pose. J'ai à mes côtés un artiste total. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour. Belle présentation.
Ah, je vous remercie. Vous la méritez. Gilles Clément, ma première question, c'est quel est votre rapport à la mélancolie ? Et je dois dire qu'il y a quelque chose qui frappe quand on lit vos interviews ou quand on étudie un peu votre pensée, c'est que vous semblez presque avoir un stoïcisme, puisque vous acceptez le bon comme le mauvais. Et c'est un peu ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi.
Oui, mais c'est comme ça que j'ai toujours vécu, en me trouvant face à ce qui pouvait avoir l'air très bon pour certains, bon, voilà, et puis pas bon du tout pour d'autres, mais que moi, je ne faisais qu'accepter en tant que tel. Et j'ai pu vérifier cette sensation que j'avais en général auprès de des étudiants, par exemple, ou des jeunes, quoi. Quand j'ai été professeur, il y a ceux qu'on dit être bons, entre guillemets, et d'autres moins bons, mais ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce type d'évaluation-là ne vaut pas. Ils sont, et c'est tout.
Pas de, par-delà le bien et le mal, finalement.
Ouais.
Et alors, êtes-vous un être mélancolique, Gilles Clément ?
Alors ça, j'ai pas l'impression, mais je me rends pas compte, hein, parce que c'est les autres qui peuvent le dire. Moi, j'ai pas l'impression parce que je suis toujours intéressé par quelque chose qui est ce qui va m'étonner. Et comme, heureusement, je suis jardinier, il y a de quoi être surpris à peu près tous les jours, quoi, et plusieurs fois par jour.
Il y a une chose qui vous rend triste, évidemment, et peut-être que ça provoque même de la colère chez vous, c'est le désastre écologique et social atteint aujourd'hui, qui atteint des dimensions planétaires.
Oui.
Et vous répondez finalement à la question « comment ne pas nous suicider demain ?»
C'est là, il y a une espèce de suicide inconscient collectif qui est très évident. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui se passe et les raisons pour lesquelles on ne pourra pas continuer à vivre, mais on continue à faire ce qui va nous détruire. Donc c'est un suicide. Mais enfin, on sait aussi qu'on peut arrêter le mécanisme. Il faut juste changer totalement de modèles culturels, surtout de modèles économiques. Ce qui se passe en ce moment, par exemple, est très très intéressant, parce que c'est la manifestation très concrète de quelque chose qui arrive au bout de son mécanisme, le modèle économique ne fonctionne absolument plus. Il crée un désordre profond, c'est sur la planète que ça se passe. Et ça n'a presque plus rien de politique. C'est juste qu'on ne peut plus vivre comme ça.
On va peut-être y revenir et surtout aborder l'admirable cacophonie de la vie, comme vous l'appelez, Gilles Clément. Chers auditeurs, tenez-vous prêts, nous allons convoquer dans quelques instants Étienne Chatillès, Bakounine, le jardinage, un traité d'intolérance, l'effacement des mots inutiles, Cyril Mokayesh, Féloche et Thierry Fontaine, juste après le titre « En vacances » de Séverin.
Ton boulot s'en balance, je voudrais qu'on se tire en vacances. Mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser. Sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école. T'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, bord de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Et le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regardez les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Gilles Clément.
Marielle, je vous en prie, je vous en conjure, calmez-vous. Reprenez vos esprits. C'est une nouvelle épreuve que Dieu nous envoie. Il faut savoir la surmonter. Il faut à tout prix éviter que le scandale éclabousse ses deux enfants. Quant à ma Vial, elle va quitter la ville, c'est ce qu'elle a de mieux à faire.
Mais pourquoi ?
Écoutez, Marielle, j'ai réfléchi. Nous ne pouvons pas priver plus longtemps Maurice d'une éducation qui aurait dû être la sienne. D'autre part, il semblerait tout à fait déraisonnable, voire criminel, d'abandonner Bernadette aujourd'hui. Elle est notre fille aussi. Le Seigneur nous l'a donnée. Et enfin, je pense que ces gens-là ont une existence très difficile. Un soutien financier de notre part devrait pouvoir arranger bien des choses.
Va falloir jouer serré.
1988, premier long métrage d'Étienne Chatillès, La vie est un long fleuve tranquille. Gilles Clément, vous avez choisi ce film. Là, on entendait Hélène Vincent et André Wilms qui font les Lequesnois, donc la famille riche, très catholique, qui apprennent tard que leur enfant a été échangé à la naissance. Mmh. Et puis il y a les Groseilles.
C'est ça.
Qui sont une famille pauvre.
Ouais, ouais.
Et un peu affreux, ça les méchants.
Oui, mais pas seulement ça, heureusement.
Non.
Mais quand j'ai vu ça, j'étais complètement sidéré. Je me dis, mais il a réussi à faire une espèce de synthèse d'une situation qui est, que moi, je connais. C'était remarquable, quoi. Bon, avec une forme un peu caricaturale, mais tellement bien choisie. J'ai ri et pleuré comme ça tout le temps. Ça m'a paru très réussi, oui.
Mais parce qu'il y a une cruauté dans ce film.
Oui.
Je pense à, par exemple, la petite Bernadette, c'est une petite
oui.
fille, donc c'est celle qu'on a échangée à la naissance.
Oui,
elle n'est pas aimée.
Oui, bien sûr. Non, non, c'est absolument cruel, c'est sûr.
La morale.
Mais ce scénario a permis à Châtillaise de révéler la manière de vivre de gens qui sont complètement à l'opposé dans le système. Et là, on voit à quel point c'est incompatible. C'est très intéressant d'ailleurs, ce serait presque intéressant de le retrouver aujourd'hui, ce film-là, pour comprendre des choses qui se passent en ce moment.
Je ne pense pas qu'on puisse sortir un tel film aujourd'hui.
Ça, c'est possible.
Oui.
Ça, c'est possible, oui.
Là, on est dans une parcelle, donc le Namaqualand, où je favorise le semis naturel de deux plantes, le Dimorphotheca sinuata ici, et qui est une plante sud-africaine, et puis le chrysanthème des moissons, qui est une plante méditerranéenne classique et qui fait des très belles fleurs jaunes. Le Namaqualand, c'est un désert qui, lors de la première pluie, se couvre de fleurs. Donc continuellement, pour retraduire ce paysage-là, faut en même temps que je laisse faire et en même temps que je laisse des petites portions de terrain nu de façon à ce que les graines puissent se retrouver au sol et aient une chance de regermer.
Alain Manceau, chef jardinier du domaine du Rayol dans le Var, dans le documentaire que vous a consacré Olivier Comte en 2014, Gilles Clément, le jardin en mouvement. L'activité qui vous grise, c'est évidemment le jardinage. Quels sont vos premiers souvenirs? Puisque vous parlez beaucoup du jardinage aujourd'hui, mais j'ai lu dans une interview qu'il y a un souvenir d'adolescence très violent où on vous demande de pulvériser un insecticide contre les pucerons. C'est votre père qui vous demande ça et ça vous cause un coma de 24 heures.
Oui, oh, il n'est pas responsable de ça.
C'était non, bien sûr.
L'appareil que j'utilisais, qui était une sorte de petit bazooka, qu'on manipule comme ça et qui s'est détaché, et la partie métallique est rentrée dans l'arcade sourcilière, le poison passé dans le sang, et ça m'a ça m'a mis dans un état, oui, dangereux, mauvais, et je me disais, mais oui, bah d'accord, on a tué les pucerons, mais enfin, si on tue le jardinier avec, il y a peut-être d'autres manières de jardiner.
C'est votre premier souvenir de jardinage ou vous avez commencé à...
Non, heureusement, j'en avais quand même d'autres qui étaient un peu plus agréables. Mais j'étais encore dans une période où je croyais à ce qu'on me disait. C'est plus tard que j'ai dit non, bon, j'arrête maintenant, j'invente quelque chose d'autre.
Par expérience.
Bien sûr.
Pouvez-vous rappeler, Gilles Clément, pour les auditeurs, ce que signifie jardin?
Jardin, ça veut dire à la fois enclos et paradis. Alors, paradis, c'est peut-être un peu discutable, mais même encore que, mais enclos, c'est sûr, puisque c'est l'espace dans lequel on a apporté, dès la première sédentarisation, des plantes, parfois aussi des animaux, qu'on allait autrefois chasser ou chercher dans le lieu où elles étaient, où elles vivaient, ces êtres-là, et on les met dans un petit enclos pour le protéger de la prédation, pour pouvoir s'y retrouver. Et bon, voilà. Et ça, c'est vraiment aussi le premier mécanisme du brassage planétaire, puisqu'on a fait de l'importation. C'est le début de l'importation. Après, on est allé très loin chercher les choses.
Et on est censé garder le meilleur dans cet enclos.
On représente le meilleur. On ne peut pas vivre sans des aliments. Donc là, c'est le meilleur dans une urgence vitale au départ. Après, on en fait quelque chose qui est aussi un agrément. Et alors là, on rajoute une idée du meilleur à travers les mythes et les croyances, une esthétique et finalement des symboles. Et chaque fois, ça change avec l'idée du meilleur qui, elle, change avec le temps.
Gilles Clément, vous défendez le concept de génie naturel, vous avez confiance, c'est même un optimisme en ce qui concerne la nature. Avez-vous le même optimisme concernant l'homme?
Alors, je pense que nous n'avons pas du tout exploré nos capacités, sûrement. Chez les êtres non humains, c'est tout à fait certain qu'on est ignorant à un point fou. Ils sont là avant nous. Nous, on vient juste d'arriver. On est des tout petits gamins, hein. Donc on tape sur les choses, on fait une centrale nucléaire, ça explose, on fait un machin, des guerres et tout. Enfin, on est vraiment...
On fait des bêtises.
Extrêmement maladroit, on fait des bêtises. Ce que ne font pas les autres, ils ont mis des stratégies au point qui leur permet de résister dans le temps, quels que soient les aléas.
Les autres, vous parlez des animaux, des insectes,
oui,
des végétaux.
Les végétaux. Et nous, je pense que oui, on a un truc bizarre qui est le cerveau, qui est arrivé comme ça, à force de se mettre debout, un peu plus gros qu'il ne faudrait sans doute. Et ça nous fait faire des choses très délirantes, mais on n'exploite pas toutes les capacités du cerveau. Un huitième à la fois seulement? Pourquoi on n'en fait pas deux ou trois? Pourquoi on ne fait pas de télépathie? Pourquoi on n'arrête pas de faire des choses un peu grossières et très très maladroites, quoi? Donc on a du travail à faire, oui.
Vous dites, Gilles Clément, qu'il faudrait justement accroître la connaissance de tout le monde dans le domaine de l'écologie, mais au sens large. Vous dites souvent que l'écologie est mal présentée. Et on pourrait commencer par quelque chose de simple, par exemple connaître les plantes ou le fonctionnement des écosystèmes. On peut le faire tout seul, ça?
Ça, on peut le faire tout seul. Et je viens de recevoir d'ailleurs un très joli livre de Gérard Dusserre qui met à la disposition de presque tout le monde, avec des photos, la connaissance des plantes, c'est très bien. Et c'est une plante qui a un nom et qu'on appelait autrefois mauvaise herbe, elle existe, elle prend un rôle complètement différent. Surtout quand on explique que oui, elle est liée à tel insecte, à tel oiseau, et que finalement on rentre dans l'écosystème grâce à elle tout de suite.
Avez-vous un jardin favori parmi tous ceux que vous avez imaginés?
Difficile à dire, mais vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez passé une interview de Manso Raiol, c'est sûr que c'est un des jardins qui me touche beaucoup. Il a gardé une espèce de dynamique sauvage, initiale très belle. Un paysage en plus, c'est pas mal. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Bon, il y a le mien forcément, parce que moi je pourrais pas m'en passer. Donc c'est très difficile à répondre à cette question.
Quand vous faites du jardinage, Gilles Clément, vous êtes dans un texte, vous dites que ça implique autant le corps que l'esprit. Vous êtes totalement absorbé ou vous pouvez ruminer, avoir des pensées mélancoliques, métaphysiques?
C'est pas tout à fait pareil.
Non, parfois ça s'accorde.
Oui, quelquefois ça s'accorde. Mais bon, on a les mains occupées.
Donc le corps est engagé.
Le corps est engagé. Et presque toujours, on est satisfait par ce qui est produit, par cette activité du corps. C'est très rare d'être en déception, d'être en échec, en fait. Et l'esprit vagabonde pendant ce temps-là. Il n'y a pas de raison particulière d'aller dans un domaine qui serait tragique, pénible, etc. Il n'y a pas lieu. Ça peut arriver, bien entendu, mais il n'y a pas lieu. Et c'est parfois dans ces cas-là qu'au contraire arrive un mot intéressant. Tiens, pourquoi on ne l'utiliserait pas? Ou une image, un dessin à faire, enfin, et qu'on fera plus tard. Mais l'esprit vagabonde, les mains sont occupées.
Donc plutôt une inspiration, Gilles Clément.
Une inspiration, oui.
Et vous n'êtes jamais déçu par la nature? Je connais votre capacité à être émerveillé par toutes ces surprises, mais est-ce qu'on peut être déçu par la nature?
Je ne sais pas si le mot convient, on est étonné. Quelquefois on est surpris, agacé, mais déçu. Ça voudrait dire qu'on aurait fait un plan sur la comète, dans la névrose de la rentabilité des trucs. On n'est pas là-dedans, du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est pour les banquiers.
Non, mais pas de banquiers ici. Bon. Même si je suis sûre qu'il y en a des très gentils.
Oui, ça existe sûrement.
Gilles Clément, ce que vous appliquez au jardin peut s'étendre à l'humanité. Votre citation Becky est du révolutionnaire, penseur, théoricien de l'anarchisme et philosophe russe Mikhail Bakounine. On la trouve dans une publication posthume de 1882 intitulée Dieu et l'État. C'est la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Donc la liberté n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire sociale.
Ah, c'est très important et c'est comme quand je vois un chien sans laisse et sans collier, à Santiago, à Sarajevo ou ailleurs, il y a des pays comme ça, les chiens jaunes. Moi, ils me rendent libre. Moi, ils me rendent heureux. En équilibre avec moi-même. Je vois bien qu'ils font quelque chose qui est une nécessité pour eux d'être en prise directe avec les autres, y compris les humains, parce qu'ils ne sont pas de là où il n'y a pas d'humains. Mais ils ne sont pas pris dans ce carcan. Ils ne sont pas robotisés.
Mais ils ont aussi la liberté d'attaquer l'homme, ces chiens, en liberté.
Mais, et alors, on n'a pas, nous, une liberté d'attaquer les autres?
Si.
On n'arrête pas de tout détruire sur la planète. Bon, ça, ce n'est pas une liberté intéressante. Elle est souvent téléguidée, celle-là. C'est les guerres qui sont organisées, ce que les animaux ne font jamais.
Vous pensez que l'homme est naturellement bon?
Je ne saurais pas dire une chose pareille. Là, vraiment, j'ai aucune idée là-dessus. Je pense qu'on peut le rendre idiot et mauvais assez vite, oui. Donc peut-être qu'il est quand même meilleur qu'on croit au départ, mais on peut lui rendre une vie aussi parfois tellement difficile qu'il devient méchant.
Gilles Clément, pensez-vous que la liberté puisse faire peur?
Ah non, c'est tout le contraire. Ça, pour moi, c'est tout le contraire. Et je ne sais pas comment dire, mais je le vois dans la rue. Enfin, je le vois partout. Dans le métro aussi bien. Je vois ceux qui sont abattus. Sont ceux qui sont contraints. Et ceux qui ont une autre attitude, et plus souple, plus avec un regard un peu franc et pas forcément attristé, à mon avis, sont libres, ceux-là.
Mais nous sommes beaucoup à être aliénés.
Oui, mais ça, ce sont les mécaniques de notre mode de vie qui nous asservissent complètement, nous assurent que par l'évaluation, il faut que nous soyons comme ci, comme ça, fassions tel métier, etc. C'est terrible de demander à un gamin qu'est-ce qu'il veut faire alors qu'il est tout petit. Il verra, il a quand même le temps de voir. Mais on demande la performance immédiatement. C'est dramatique, le processus des évaluations. Je trouve ça horrible. Et c'est effectivement un très très mauvais système de vie. Mais nous sommes responsables de ça parce que nous l'avons accepté. En copiant des modèles d'ailleurs. Hein. Ça ne vient pas toujours de chez nous, ça.
Et alors, quand on a pris l'habitude de ce carcan, comment faire à petite échelle, en commençant petit, Gilles Clément, pour s'affranchir un peu et aller un tout petit peu plus vers la liberté?
Il faut dire... On n'est pas obligé de dire non parce que les gens à qui on dirait non pourraient vraiment ne pas comprendre, surtout quand il s'agit des parents. Mais il faut penser non. Il faut dire, moi je vois autre chose. Peut-être je pourrais l'expliquer plus tard. Mais moi je vois autre chose. Je décide d'avoir accès à mon autonomie d'esprit. Si je fais quelque chose, ce sera une décision que j'aurai moi en connaissance de cause. Ce qu'on me raconte et que je dois soi-disant comprendre, accepter, d'accord, mais si je constate que c'est pas vrai, ben je constate que c'est pas vrai. Donc ce qui est très important, c'est que justement il y ait cet accès à l'intelligibilité par la compréhension, disons accès à l'intelligence par la compréhension et l'intelligibilité du contexte. Et là, on comprend, alors on agit en fonction. Et ça, c'est très équilibrant.
Et donc prendre le temps de produire de la pensée et non pas mâcher ce qui est déjà pré-mâché.
C'est horrible. Ça ne convient absolument à personne. On peut comprendre qu'il y ait des règles générales. Oui, il vaut mieux pas, je sais pas, se mettre les pieds sur les rails quand le train arrive. Bon, d'accord. Mais enfin, il y a des limites, quoi, aussi, à tout ça.
Dans un instant, nous évoquerons Charb et la possibilité d'un gouvernement éclairé, juste après un titre de la playlist France Inter, Leila Makkala, de Capitalist Blues.
Thank you. night. I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right. I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Gilles Clément.
Je débusque, en tout cas j'essaye de débusquer le grotesque et aussi l'obligatoire. C'est-à-dire que la mozzarella a le goût de rien et du coup... On estime, ou en tout cas des gens pensent pour nous, qu'on peut la partager avec tout le monde, puisque ça n'a le goût de rien, il n'y aura pas de conflit sur la mozzarella, il peut y avoir des différences de goût, mais comme il n'y en aura aucun, tout le monde peut se mettre d'accord sur ce néant, quoi. Et c'est juste un exemple avec la mozzarella, mais c'est un peu, il y a plein d'autres exemples.
Le dessinateur satirique et ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo charme en 2014 sur France 24. Votre sérum littéraire, Gilles Clément, est extrait de son nouveau petit traité d'intolérance paru en 2016, un an après sa disparition dans l'attentat de janvier 2015. C'est 40 chroniques où il dénonce avec humour les travers contemporains, pour ne pas dire la bêtise. En tout cas, tout ce qui l'exaspère, il y a les verrines, les parents d'élèves, la mozzarella, les multiplex, les surfeurs. Et vous, Gilles Clément, vous avez choisi le texte « Mort aux souffleurs de feuilles mortes ».
Oui.
Pourquoi ?
Ah, parce que vraiment, je trouve qu'il a raison. Il y a des petites choses sur lesquelles je suis pas complètement d'accord quand il parle des saloperies à propos des poussières que l'on souffle. Quelquefois, c'est au contraire de l'engrais. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, il a vraiment raison, quoi. C'est un outil atroce qui fait non seulement du bruit, mais qui pollue, mais qui en plus enlève ce qui pourrait devenir une nourriture, dessèche le sol. C'est extrêmement gênant. J'ai trouvé une utilité seulement. C'est dans un parc zoologique. On m'a appris qu'on échangeait les animaux en Europe. Il fallait les transporter, de mettre en cage. Et il y a des animaux qui ne supportent pas ça, deviennent extrêmement dangereux. Pour arriver à les faire rentrer dans une cage, et c'est le cas du lion d'Asie, on prend la souffleuse et là, il se rabat, il se met tout seul, hop, on le met dans la boîte et on l'emporte. Parce qu'il ne supporte pas. Mais nous aussi, on est des lions, on ne supporte pas.
Oui, donc la seule utilité, en fait, est terrifiante.
C'est un outil idiot, dangereux, mais qui donne ce sentiment comme ça de puissance,
oui,
de maîtrise et de virilité. Bravo.
Alors Gilles Clément, est-ce que vous nous liriez ce texte?
Oui, je vous le lis avec plaisir. Mort aux souffleurs de feuilles mortes. Bon. Le mec habillé en vert. Jamais il n'a eu un si gros machin dans la main. Babar, on dirait. Et il fait aller sa trompe de gauche à droite, puis de droite à gauche. Une trompe à moteur thermique, quatre temps, qui souffle un vent de 250 km/h. Une trompe qui pue l'essence et qui fait un bruit de tondeuse à gazon. Lentement, méticuleusement, il fait s'envoler les feuilles mortes, les mégots, la poussière, les molars séchés, les crottes de chien et les emballages de McDo à 2 mètres du sol. Il suit le nuage d'ordures tranquillement. La mission de ce berger des trottoirs, c'est de rassembler son troupeau de saloperies pour en faire un tas. Bon, c'est juste là que je trouve que on peut dire que c'est pas forcément des saloperies, mais ça dépend. Mais chaque mouvement de la souffleuse disperse un peu plus ce qui finalement ne sera jamais un tas. Il s'en fout, le type. Il fait ce que son chef lui a dit de faire. Le service d'entretien de la ville a obtenu du conseil municipal qu'on remplace les vieux balais efficaces par des souffleuses bruyantes, polluantes et incapables. La fierté du con, à qui on a offert un nouveau jouet qui fait vroom, il l'éprouve encore, le balayeur. Même après avoir compris que sa machine est inadaptée à sa tâche. Avec le boxon qu'il fait, on le remarque. Il existe, enfin. Ça, c'est sûr. Et puis oui, l'outil est viril. Bon, c'est moins sûr. Au moins autant qu'une mitrailleuse lourde. Au lieu d'étendre des ploucs raides morts quelque part en Afghanistan, il fait voltiger la merde. Un mini-étron canin décolle et vient se coller dans le chignon d'une vieille. Dommage collatéral. Ici aussi, c'est la guerre. Une guerre aussi absurde que l'autre, une guerre ingagnable. L'imbécile pourrit les oreilles et les trous de nez de tout le quartier, mais le contribuable qui subit tout ça est heureux malgré tout, heureux de constater ce que la ville fait de ses impôts. Le raclement du balai sur le trottoir, il ne l'entendait pas. Le contribuable, là, au moins, il a la preuve rassurante que l'employé municipal bosse. Je crois que vous en serez d'accord. il faut enfoncer profond un de ces engins dans le cul des mères qui les achètent afin de leur faire remonter la matière grise au cerveau. Amen.
Mort aux souffleurs de feuilles mortes de Charles Duparvoux, oui. Gilles Clément. Merci beaucoup. Dans ce recueil, Gilles Clément est aussi indigné par les abus de langage ou les expressions vidées de leur sens. Par exemple, on lâche rien. Les gens qui disent on lâche rien dans les manifestations, pour lui, ça veut dire qu'on a déjà été dépossédé de tout, qu'il nous reste une miette et on dit je ne lâcherai pas cette miette. Il faudrait dire on conquiert tout, oui, à la place. Oui. Et votre idée consolatoire, Gilles Clément, c'est, elle va un peu dans ce sens, c'est l'effacement des mots inutiles. Vous aimeriez qu'un gouvernement éclairé nomme un effaceur de mots inutile, mais vous dites que c'est à double tranchant. Alors commençons par le positif. Pensez-vous, comme Wittgenstein, les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde? Est-ce que c'est le langage qui détermine notre perception du monde?
Ça joue beaucoup. On pourrait imaginer un monde où il n'y aurait pas de mots, c'est-à-dire où une forme de vision raisonnée et abstraite parfois n'existerait pas, mais où on ne vivrait que par des contacts de sensibilité. On aurait plutôt une approche animale qu'on a toujours, mais on l'a un petit peu mise de côté et on privilégie les mots. Mais parfois, ces mots, à cause de ce qu'ils entraînent, à cause du sens qu'ils ont, ils peuvent créer des désastres comme ils peuvent aussi émerveiller. En tout cas, ils ont un poids énorme.
Et alors, quels sont les mots inutiles pour vous ?
Alors j'en ai fait une petite liste, mais je ne vais pas la donner ici parce que le texte n'est pas encore écrit. J'ai écrit seulement le premier. Il y a un premier mot qui est le mot nature.
Vous supprimeriez le mot nature?
Voilà.
Alors là vraiment, je suis étonnée.
Oui, le mot nature a été créé, disent les experts, hein, par les Grecs anciens pour étudier de façon objective et scientifique tout ce qui était finalement un peu soumis à la superstition polythéiste de l'époque, et qui mettait les humains dans un état fusionnel, mais qui ne leur permettait peut-être pas de comprendre exactement le fonctionnement de ces êtres non humains. C'est le début des sciences naturelles. La distance a été prise avec cette nature en question, ces êtres vivants non humains, de plus en plus grande au fur et à mesure que les outils pour comprendre et analyser ont été plus performants, jusqu'au 19e et à la fin, et même au début du 20e, on en est encore un peu là d'ailleurs, ce qui nous met dans une sorte d'illusion de la maîtrise, et on fait énormément de bêtises à ce nom-là, tout à coup, et c'est le choc de l'avènement de l'écologie, on comprend que c'est pas du tout ça, qu'on fait partie du maillon d'une chaîne, que nous faisons partie de la nature, nous sommes juste des êtres vivants comme les autres, et nous dépendons de tout le reste. Mais alors à quoi il sert ce mot ?
À mettre une distance, en fait, entre nous.
Exactement. Donc, pour éviter la distance, on l'élimine, on parlera du vivant. Bon, c'est une façon de discuter de ce que veulent dire les mots et qu'est-ce qu'ils créent. Vous voyez, quand on crée le mot environnement, on renforce cette notion de mise à distance. C'est lamentable. Lamentable. Les Espagnols utilisent medio ambiente, milieu ambiant. Déjà, on est un petit peu plus dedans, un peu dans l'immersion, on est un peu plus dans la vérité.
Mais justement, en parlant de vérité et de suppression des mots, Gilles Clément, vous avez bien précisé que c'était à double tranchant, mais il y a aussi la novlangue imaginée par Orwell en 1984 pour limiter la pensée. Il supprime des mots du dictionnaire pour limiter la pensée.
Oui, bien sûr. Là, ce ne serait pas pour ça.
Oui.
Ce serait au contraire pour agiter la pensée.
Donc, votre gouvernement idéal, le ministère le plus important serait celui de la connaissance.
Oui. C'est celui qui permettrait de comprendre où on est. À partir de ce moment-là, de comprendre les gestes qu'il faut faire pour continuer à pouvoir vivre sur cette planète. Tous les autres ministères dépendraient de celui-ci. Et celui qui aurait, non pas le moins d'importance, mais qui serait le plus bas placé, serait le ministère des Finances, permettant de faire fonctionner tous les autres. Mais ce n'est pas lui qui donnerait ses ordres.
Ce serait juste un accès à la connaissance.
Bien sûr.
Gilles Clément, quand vous aviez des cours de philosophie au lycée, il y a des idées qui ont changé votre vie et votre vision du monde. C'était les théories des mathématiciens Riemann et Lobachevsky que vous avez découvert, puisque vous avez découvert que les parallèles pouvaient se croiser, la géométrie devenait courbe, les carcans s'effondraient, alors tout était permis.
Bien sûr, c'est magnifique. Moi j'étais en seconde, bon j'ai pas fait de philosophie, mais on avait des profs de philosophie qui disaient des choses admirables, notamment celle-ci qui a été pour moi très déterminante. Je me dis bon, on part sur des arbitraires, ben on change d'arbitraire pour regarder autre chose.
Donc le champ des possibles s'est ouvert.
Bien sûr.
Il est temps de découvrir ce qui fait remuer vos particules. Gilles Clément, voici votre premier antidote musical.
Il existe
où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Escalade les jardins en escalier.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Gilles Clément qui vient de nous faire entendre un titre de 2013, Silbo de Féloche. Le Silbo, c'est le langage sifflé utilisé par les autochtones de l'île espagnole de la Gomera appartenant à l'archipel des Canaries. Je vous laisse nous en parler Gilles Clément parce qu'il y a quelque chose de très poétique.
Oui, c'est une manière extraordinaire de communiquer qui évidemment a à voir avec le monde animal mais qui est entendu avec beaucoup de précision et de distinction par les habitants pour dire maintenant je suis là, je vais là, je suis en retard, je suis en avance. Enfin, il y a d'ailleurs des très beaux reportages là-dessus qui l'expliquent très très bien. Et avoir utilisé ça comme une espèce de pré-internet ou un téléphone, sans énergie, sans rien, avant tout le monde, c'est très très beau. Il y a d'autres peuples qui font ça sur la planète, mais aujourd'hui ils continuent à la Gomera.
Et puis le sifflement a une portée peut atteindre une portée de 8 à 10 kilomètres.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une chose qu'on a oublié d'utiliser.
Ça les perdra de mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices. Ça les perdra de coucouner le patronat, de boucliériser l'élite qui t'embauche pas mais qui profite de ces villas, là, là, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascédiques, et moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque.
En 2011, communiste de l'ancien champion de France junior de tennis, Cyril Mokayesh, un remède de révolté.
Oui, alors faut le réécouter hein, parce que c'est d'actualité. C'est dommage qu'on puisse pas l'entendre jusqu'au bout, c'est magnifique. En plus, il a fait maintenant, depuis, on en parle un peu moins, je trouve ça très dommage. C'est un grand artiste, un grand poète. Et voilà, il a beaucoup à dire. En plus, il y a une espèce de mise en dérision à la fin de la chanson qui fait que c'est un petit remède à la mélancolie aussi.
Oui, où il est question d'absurditisme et de suicidarisme.
Voilà.
Cyril Mokayesh dit dans une interview « Tourner la tête serait irresponsable. Parler de son époque est presque un devoir, surtout quand il y a autant de blessures, de tensions, de larmes. » Gilles Clément, vous adhérez à cela ?
Complètement. Complètement, mais il arrive à le faire avec un pouvoir émotionnel, je ne sais pas comment dire, et fort, extrêmement puissant, et d'aborder aussi des aspects qui sont peut-être plus ordinaires, comme ceux du couple ou de l'enfant. Et je trouve qu'il fait ça bien, quoi. Très rare.
Je considère que ce sont des rêves parce que, évidemment, ce sont des images possibles, mais qui sont inventées de bout en bout. Et qui sont des idées, voilà, je photographie à proprement des idées qui apparemment sont possibles, mais qui dans la réalité n'existent pas.
Extrait de « Chaque homme est une île », le documentaire d'Olivier Charpin consacré à l'artiste Thierry Fontaine en 2017. Gilles Clément, vous avez choisi l'une de ses photographies, « Le fabricant de rêves » datant de 2008. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
Il s'agit d'une mise en scène. Thierry Fontaine fait des mises en scène avant de photographier, parce que finalement l'objet final est une photo toujours. Et quand on regarde ça, effectivement, là, on est très surpris. On dit, mais comment ça? Ça a l'air d'être une photo prise sur le terrain, mais en fait, c'est pas possible. Et là, il nous transporte complètement dans un monde à part où on voit qu'il y a une sorte d'hybridation entre deux cultures. Il travaille énormément là-dessus, sur cette notion-là de métissage sur toute la planète. Et quand il va peindre des noix de coco en ballon de rugby, et ça fait un tas comme ça, c'est une très très belle mise en scène, ou un autre qui fabrique une tour Eiffel avec des allumettes, ça peut l'air un peu plus banal, sauf que ça se passe aux Antilles et en Vanuatu. On se retrouve, on dit mais c'est quoi ce brassage culturel et imprévisible.
Vous avez participé, Gilles Clément, en novembre 2018 au Centre photographique d'Île-de-France à une rencontre avec Thierry Fontaine autour de son exposition Les pluriels singuliers. Comment avez-vous rencontré cet artiste ?
À l'île de la Réunion, où nous avons été d'où il est originaire, et nous avons été sollicités avec d'autres artistes sur un petit jardin, le jardin Tijan sur la route du Maïdo, qui malheureusement n'a pas été réalisé. Enfin, c'est un petit terrain très beau. Et puis le commanditaire du projet ayant été muté ailleurs, ça s'est arrêté là. Et j'ai retrouvé ensuite cet artiste à travers des expositions qu'il a pu faire et une carte postale un jour que je reçois, qui était de son travail, qui avait été édité par la maison d'expo. Et on voit quelqu'un qui est au bord de la route, on voit que la main, qui tient un carton, c'est quelqu'un qui fait du stop, sur lequel, et on voit juste la route et le paysage, ça se passe à La Réunion, et sur lequel il y a marqué « Seul ». Je trouve qu'il y a un rapport entre très intéressant, et une chanson d'ailleurs de Cyril Mocage qui s'appelle « Seul », qui est fantastique. Et là, il y a encore une autre vision, ça touche tout le monde, ça. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben voilà, quoi, c'est un vrai artiste.
Thierry Fontaine, lui, fabrique des fictions instantanées, il met en scène ces petites histoires qu'on voit en une photo. Et vous, Gilles Clément, dans votre traité « Succinct de l'art involontaire », vous cherchez à photographier l'inhabituel, un motif esthétique inattendu. Et vous dites, dans le jardin en mouvement, l'intérêt des situations décalées est de relancer la dynamique de l'observation.
Oui, vraiment. Mais là, c'est ce qui, moi, me surprend. Il y a un photographe qui s'appelle Franck Gérard qui procède un peu de la même façon. Moi, je fais ça depuis très, très longtemps. Je vois quelque chose qui m'étonne. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un artiste quelque part qui a fait quelque chose. Et puis non, pas du tout. C'est pas signé. Personne n'a fait. C'est un accident ou une circonstance heureuse. Mais bon, et personne ne va le revendiquer. Et moi, je prends la photo. Parce que vraiment, je me dis quoi, ça ne reviendra pas, c'est fantastique. Quand un jour, je suis dans le train, une femme s'assoit et le fauteuil, lui, il est rayé avec un entrax des rayures très précis. Elle arrive et son vêtement est un chemisier rayé exactement avec le même... C'était les mêmes. Je me dis, c'est pas possible. Qui avait prévu ce scénario-là? J'ai pris la photo. Voilà. Et ça ne durera pas, elle s'en ira.
Et vous les regardez, vos photos?
Oui, de temps en temps, oui, bien sûr.
Et ça vous fait sourire?
Ah oui. Oui, ben, quelquefois même, je dis, tiens, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça dans la cité interdite à Pékin. J'avais pris la photo parce que là, c'était encore une femme qui arrive avec un manteau rouge de la couleur du mur. Et puis, mais il y avait plein d'autres détails autour. Avec, évidemment, plein d'autres humains. Et elle me dit, ah bon, mais ils regardaient ça, pourquoi, etc. Donc, ça m'arrive de revenir sur les photos, oui.
Oui, les humains sont en camouflage dans votre monde, Gilles Clément.
Ils sont toujours là quand même.
Hélas, où? Ou parfois c'est une bonne nouvelle, ça peut arriver.
Oui.
Il paraît que vous faites de la moto.
Ah ben oui, je suis venu en moto là.
Ah oui ?
Mon casque est là.
C'est le seul endroit où vous êtes dans la vitesse ?
Oui, alors, quelquefois un peu au-delà de... Bon, là je viens de récupérer la moto et le permis.
Ah oui, d'accord.
J'avais été assailli par les bandits de grand chemin, vous savez, ceux qui sont en bleu.
Oui, je les connais.
Voilà. Et bon, pour pas les écraser, hein, parce qu'ils se mettaient au bord sur la route, j'étais obligé de m'arrêter. Et puis là, ils m'ont pris la moto et les papiers. Bon. Enfin, ils m'ont gentiment rendu.
Bon, écoutez, je vous
au
souhaite
trois mois.
De beaux trajets. Alors, merci beaucoup Gilles Clément d'être venu dans cette émission.
Merci de m'avoir invité.
Je renvoie les auditeurs vers vos publications ainsi que votre très jolie leçon inaugurale de décembre 2011 au Collège de France intitulée « Jardins, paysages et génie naturel » qu'on trouve en ligne. On peut rêver en contemplant les jardins que vous avez façonnés un peu partout sur le globe en collaboration avec le hasard, la nature et parfois d'autres humains. Je signale la réédition du très beau « Le jardin en mouvement » aux éditions Sens et Tonka. Votre dernier roman « Le grand bal », mais ce n'est pas un bal réjouissant, c'est chez Actes Sud. On trouvera plein d'autres choses réjouissantes sur votre site internet et je signale que vous êtes aussi le parrain de la licence professionnelle aménagement paysager et design des milieux anthropisés ouverte depuis la rentrée 2017 à Limoges. C'est la troisième école du jardin planétaire. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a le soyeux d'un chien en hélébore. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.